C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, il faut reconnaître que les temps sont moroses. Crise sanitaire, crise économique, crise écologique, le tout démultiplié par la mondialisation. Mais non, disent de nombreux penseurs, c'est juste la fin d'une civilisation. Ah bon ? Oui, la fin de la civilisation thermo-industrielle basée sur l'extraction et l'exploitation massive des ressources naturelles au détriment du vivant, à commencer par notre propre espèce, nous les humains. La Covid n'est qu'un avertissement parmi d'autres. C'est donc notre fonctionnement global qu'il faut repenser, à commencer par un système économique qui, comme tous ses prédécesseurs, a une histoire qui peut toucher à sa fin. J'ai nommé le capitalisme, mais pourquoi est-il plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme? Voilà une vraie question sur laquelle nos deux invités vont nourrir vos réflexions.
C'est pas du vent sur RFI.
Deux invités qui ont deux visions du monde, mais peut-être pas si opposées que cela, finalement. Bonjour Hervé Kempf.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, rédacteur en chef de Reporter, le quotidien de l'écologie, et vous venez de publier Que crève le capitalisme, ce sera lui ou nous, aux éditions du Seuil, un titre provocateur, évidemment, qui fait réagir, mais dont le contenu, on va en parler, comme la plupart de vos ouvrages, stimule la réflexion. À vos côtés, Christian de Pertuis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine, fondateur de la chaire économie du climat, et vous venez de publier Covid-19 et réchauffement climatique, plaidoyer pour une économie de la résilience chez De Bock Supérieur. Alors tout d'abord, pour poser les bases de notre discussion, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous donner l'un et l'autre, votre définition du capitalisme, Hervé Kempf?
Le capitalisme, c'est un système dans lequel la principale motivation des agents serait d'accumuler de l'argent, du capital, et non pas seulement pour en profiter, mais pour pouvoir accumuler encore plus de capital, Donc c'est un système sans fin où les agents, en termes économiques, ça veut dire les gens, tout simplement, en tout cas ceux qui le peuvent, accumulent du capital et cherchent un taux de profit maximal.
Christian de Pertuis, votre définition ?
La définition d'Hervé me semble correcte. Je rajouterai un point, c'est que le capitalisme se définit par la propriété privée des moyens de production. L'autre volet, c'est que le capitalisme se définit aussi par un certain rapport au marché. Et le marché joue un rôle plus ou moins élevé suivant les modes de régulation du capitalisme.
Alors, on va parler du marché dans un instant. Mais tout d'abord, j'aimerais vous demander si, selon vous, la crise sanitaire que nous traversons permet quand même de soulever un peu le capot et de voir que ce moteur de l'économie mondiale, quel capitalisme, a de graves dysfonctionnements. Ça sert quand même à ça, cette crise sanitaire, Hervé Kempf.
Oui, et puis surtout, ce qu'il faut dire, c'est que la pandémie de Covid est liée au capitalisme, c'est-à-dire que ses causes profondes sont une altération de la biodiversité catastrophique, notamment par la destruction des forêts tropicales, alors pour différentes raisons, l'expansion de la culture de rente de l'huile de palme, l'extension de l'agro-business, notamment en Amazonie, l'extraction de la forêt tropicale et le trafic des animaux sauvages en Afrique. Donc il y a différentes raisons pour lesquelles cette biodiversité est détruite, mais elle est toujours à œuvre de manière différente et donc a mis en contact des organismes qui, en quelque sorte, vivaient leur vie, j'allais dire tranquillement, régulés dans l'écosystème profond des jungles et qui maintenant se sont trouvés brutalement en contact avec l'espèce humaine. Et la deuxième raison, où le capitalisme joue un rôle dans l'extraordinaire ampleur de cette pandémie, c'est l'intensité des trafics aériens, particulièrement de la mondialisation et qui conduit à un mouvement frénétique des personnes et des biens, qui donc a accéléré énormément la diffusion de la pandémie. Et troisième point, dans un certain nombre de pays, l'application de politiques néolibérales, notamment d'affaiblissement des hôpitaux publics, qui a fait que la réponse à cette pandémie, qui en soi n'est pas d'une gravité énorme, elle n'a pas un taux de létalité très important, en revanche, elle nécessite, pour y faire face, des soins médicaux particuliers. Et comme l'hôpital public, par exemple, dans un pays comme la France, a été très affaibli par une mauvaise gestion et une logique néolibérale, ça a accru la gravité de la pandémie. Donc ces trois raisons permettent de dire que le capitalisme est intimement lié au Covid.
Christian de Pertuis.
Oui, moi je pense que ce qui est tout à fait étonnant, c'est que la pandémie accélère aussi des réactions qui vont faire que le capitalisme va être géré de façon différente. Les politiques néolibérales, on voit bien que la pandémie déclenche des niveaux d'intervention des États qu'on n'a jamais vus, qu'on n'aurait jamais imaginé il y a un an. Les États ont pris le contrôle des économies. Et donc on voit bien que dans le rapport d'équilibre entre le marché et l'État, je pense que la façon dont on a réagi à la pandémie va renforcer considérablement le rôle de l'État et de la prise en compte de l'intérêt collectif par rapport à la stricte logique privée des marchés.
Alors nous allons y revenir, mais on va quand même partager une bonne nouvelle. Il n'y en a pas beaucoup en ce moment, alors quand on en a une, on la partage. Grâce à la pandémie, l'activité économique a été, on l'a dit, largement limitée et du coup les émissions de gaz à effet de serre ont diminué. Je vous propose d'écouter les projections du climatologue Christophe Cassou.
En fait, cette crise, elle est très instructive pour le climat et puis pour estimer notre empreinte en termes d'émissions de gaz à effet de serre, donc de CO2 en particulier, mais aussi des particules qui forment ce qu'on appelle généralement la pollution atmosphérique, qui est visible. Les premières estimations montrent que, à l'échelle mondiale, la baisse des émissions de CO2 sur une année sera à peu près autour de, on va dire, 8%, entre 7 et 10%. Et ce chiffre-là correspond à l'effort que l'on doit faire chaque année pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, pour limiter le réchauffement à plus de degrés, c'est-à-dire pour se contraindre aux accords de Paris qui ont été signés, qui sont maintenant passés dans la loi énergie-climat. Donc on voit que les émissions de gaz à effet de serre sont comparables, et ce qui montre bien que c'est absolument pas possible d'arrêter la société sur du long terme, comme on l'a subi pendant la pandémie. Donc ça veut vraiment dire qu'il ne faut pas revenir à l'âge de pierre, hein, il faut pas, ou à la bougie, comme on dit souvent. Il ne faut pas limiter non plus les déplacements à 100 km. Il faut vraiment changer nos modes de vie. Il faut transiter vers des énergies plus propres, vers des modes de transport qui sont plus propres, vers une agriculture qui est beaucoup plus raisonnée, pour pouvoir atteindre cette diminution des émissions de gaz à effet de serre qui est du même ordre de grandeur.
Voilà, les émissions mondiales de gaz à effet de serre qui ont donc baissé de l'équivalent de l'effort qu'il faudrait que nous fassions chaque année. Or là, Hervé Kempf, c'est un virus qui a mis le monde à l'arrêt finalement. Donc c'est pas pérenne, on peut pas rester dans cette situation comme ça d'économie bloquée, c'est pas une solution. Et pourtant, ça nous donne une idée de l'effort qu'il faudrait que l'ensemble de l'économie fasse chaque année pour répondre aux ambitions de limiter le réchauffement climatique.
Alors, il y a plusieurs remarques qu'on peut faire par rapport à votre question. D'abord, les écologues et les biologistes nous disent depuis des années que ces pandémies vont arriver. Donc, c'est pour ça que je réinsiste à nouveau sur la gravité de ce qui se passe sur la biodiversité, puisque pour l'instant, on est face au SARS-CoV-2, on n'en est pas sorti. Mais ce qu'on peut imaginer, c'est si rien ne change dans l'évolution, le contrôle de la destruction des ressources génétiques, biologiques, animales, on va avoir ensuite d'autres pandémies. La deuxième remarque que je ferai, c'est au sein du système économique actuel qu'on va appeler le capitalisme, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, il y a une reconfiguration des puissances. C'est-à-dire que des industries qui, par exemple, étaient en grande expansion comme l'aéronautique, vont clairement souffrir durablement de cette pandémie. L'automobile va avoir beaucoup de mal à s'en remettre. Et puis d'autres activités, mais qui peuvent être importantes pour des pays comme la France ou comme les États-Unis, le tourisme. En revanche, il y a presque une prise de pouvoir au sein du capital, mais qui était déjà engagée depuis quelques années au sein du capitalisme, par les grands acteurs du numérique. Donc ce qu'on appelle les GAFAM, Google, Amazon, Facebook,
Microsoft.
Apple et Microsoft, voilà, j'en oublie toujours un ou deux. Et puis d'autres, évidemment, plein d'autres entreprises. Et qui, elles, ont vu leur puissance s'accroître de manière énormément parce que le télétravail, la commande à distance, le refus de contact social, enfin pour des raisons sanitaires tout à fait compréhensibles, donnent à ces activités un dynamisme très nouveau. Donc en fait, on n'a pas forcément une économie à l'arrêt, mais une économie qui se reconfigure très rapidement. Alors après, la question qu'il faut se poser et que des gens comme moi s'opposeraient, c'est mais quels sont les mécanismes d'enrichissement? Quels sont les mécanismes de répartition du revenu? Qu'est-ce que signifie de laisser se développer la numérisation sur les rapports sociaux, sur la société, de se laisser de développer l'intelligence artificielle avec les conséquences que ça aura sur le chômage, et de laisser développer aussi une activité qui en fait a un impact écologique et énergétique extrêmement important? Christophe Cassou, le climatologue, le disait très bien. On a une chute du CO2 sur 2020, c'est une très bonne année, mais il faudrait le répéter et là, changer vraiment la donne.
Alors, Christian de Pertuis, dans votre livre, vous citez la militante indienne Arundhati Roy, qui écrit « Cette crise nous offre une chance de repenser la machine à achever le monde que nous avons construit pour nous-mêmes ». C'est une phrase forte.
Moi, ce que j'ai essayé de faire en écrivant cet ouvrage, c'est de me poser la question. Bon, on met le monde à l'arrêt. Évidemment, on ne va pas maintenir le monde à l'arrêt pour une raison de pandémie pendant 30 ans, si vous voulez. C'est qu'est-ce qui est susceptible de modifier les tendances de moyen terme ou pas, si vous voulez. Qu'est-ce qui est susceptible de changer ce qu'on appelle les changements structurels, voire les changements de mode de vie. Bon. Donc, je ne sais pas si la baisse va être de 7 ou 10%. Je pense qu'elle sera un peu plus élevée sur le CO2, mais que par contre, on aura beaucoup moins réduit les émissions liées au méthane. Et donc, in fine, on sera dans ces ordres de grandeur. Il me semble que la pandémie accélère une transition extrêmement importante du système capitaliste qui, depuis un siècle et demi, repose sur ce qu'on appelle l'accumulation des sources d'énergie fossile. C'est ce qu'on appelle le bon vieux système thermo-industriel. Le capitalisme numérique, auquel faisait allusion Hervé, est un capitalisme qui, lui, investit dans l'information. Et donc l'information, c'est sa matière première. Du reste, il a développé une espèce de capacité invraisemblable pour capter toute l'information que nous lui donnons à chaque fois que nous utilisons le portable, que nous déplaçons sur une carte bleue, etc.
Bon. Mais donc, et son énergie, va s'adapter.
Son énergie, bien sûr. Et si vous regardez ce que font les capitalismes numériques, ce qu'on appelle les capitalistes viraux, le capitalisme viral, ils n'investissent plus dans le fossile. Elon Musk, il n'investit pas dans le moteur thermique, il investit dans la conduite automatique. Qui investit dans les batteries, dans l'énergie renouvelable, etc. Et donc je pense qu'on va avoir une accélération incroyable de la transition énergétique sous deux angles. La substitution énergétique, donc la substitution de nouvelles sources d'énergie, l'efficacité énergétique, car le système numérique c'est un système de réseau, le smart grid, tout ça. En revanche, ce que ne sait absolument pas faire le capitalisme viral, c'est la sobriété, qui est la troisième composante de la transition énergétique. Et il sait encore moins faire l'investissement dans la diversité du vivant qu'il faut absolument accélérer si nous voulons respecter cette extraordinaire diversité des êtres vivants qui, comme l'a fort bien dit Hervé, est une protection énorme contre la transmission des multiples virus présents dans le monde animal qui agressent le genre humain.
Hervé Kempf, avant une petite pause musicale, vous pensez-vous que le capitalisme va s'adapter ?
Il y a deux choses à dire. Il va chercher à s'adapter, c'est-à-dire à renouveler ses méthodes d'accumulation du capital et de création de profit. Donc, il va y avoir l'effet qu'a décrit Christian de Pertuis, en partie de glissement d'une partie des sources énergétiques vers les énergies renouvelables. Le problème est que la production d'énergie renouvelable à grande échelle n'a pas forcément un impact écologique faible. La deuxième chose qui a été dit, mais il faut vraiment insister, c'est que l'enjeu fondamental des politiques de l'énergie, c'est la réduction de la consommation d'énergie et d'électricité, au moins dans les pays riches. Et maintenant, la Chine commence à faire partie de ces pays où il faudrait réduire la consommation d'énergie. Là, je ne parle pas de l'Afrique ou de l'Amérique latine. Je parle des pays riches, Américains du Nord, Européens, Chine, Japon et quelques autres. Or ça, les capitalistes, qu'ils soient chinois ou américains, ne sont pas du tout dans cette logique, et je dirais à peine les Européens. Troisième aspect des choses, ils vont chercher à développer, par exemple, l'auto-électrique, ça a été cité. Or, l'auto-électrique va utiliser moins de pétrole, mais va utiliser plus d'électricité en utilisant énormément de batteries. Et ces batteries vont requérir des quantités énormes de plusieurs métaux, comme le zinc, comme le cuivre, comme le cobalt. Et donc, il va y avoir une sorte de substitution du pétrole par des métaux, alors que l'on sait maintenant que l'impact de l'extraction minière est écologiquement absolument désastreuse. Et puis troisième aspect ou quatrième aspect, je ne sais plus où j'en suis, mais qui est très important, c'est de voir la répartition des revenus, une fois de plus. C'est-à-dire que tout ça est accaparé par... Quand il y a ces jeux au sein du capitalisme, ça veut dire que les sources principales de profit se déplacent d'un groupe de capitalistes à un autre. Mais ce qui se passe, est-ce que le capitalisme va s'adapter ? Comme il y a une inégalité qui est ressentie de plus en plus fortement à travers le monde, qui va encore être accrue par les effets de la pandémie, qui crée une crise économique, mais qui est beaucoup plus difficile en Afrique ou en Amérique latine, par exemple, qu'en Europe. même si les pays européens et les pays d'Amérique du Nord commencent à sentir ça. Donc les révoltes vont continuer à croître. En ce moment, par exemple, en Thaïlande, en Bulgarie, en Indonésie, et puis il y a eu des dizaines de révoltes à travers le monde, au Soudan, au Burkina, au Chili, les Gilets jaunes en France, Black Lives Matter aux États-Unis. Donc pour l'instant, ça, il y a eu un couvercle qui a été mis là-dessus, mais cette rébellion globale qui parcourt le monde aussi bien par rapport au refus de l'inégalité que par rapport au refus de la catastrophe écologique que les capitalistes laissent se développer, font qu'à mon avis, on rentre dans un état de radicalisation, de conflit, j'en suis désolé, mais c'est ça qui se dessine, et où on verra comment le capitalisme s'adaptera. Pour vous le dire rapidement, et je conclue là-dessus, il risque fort de vouloir s'adapter de manière policière et répressive.
On va y revenir, mais quelles sont les solutions donc pour maintenir malgré tout une planète habitable pour toute l'humanité ? Est-ce que cela passe par la fin du capitalisme ? Est-ce que c'est possible, envisageable ? Eh bien, on en parle juste après une pause musicale en compagnie de Zazie.
Je suis un homme de Cro-Magnon, je suis un singe ou un poisson, sur la terre en toute saison, moi je tourne en...
Un homme, Zazie, dans C'est pas du vent sur RFI.
Reconstruisons ensemble un capitalisme régulier et régulé. Reconstruisons un capitalisme où les banques feront leur métier. Et le métier des banques, c'est de financer le développement économique. Ce n'est pas d'alimenter la spéculation.
Je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance.
Deux paroles d'ancien président français Nicolas Sarkozy lors de son discours à l'ONU à New York en 2008 et François Hollande lors de sa campagne électorale en 2012. Bonjour Lucie Pinson.
Bonjour.
Vous avez fondé et vous dirigez l'ONG Reclaim Finance qui lance l'alerte sur les impacts des acteurs financiers sur le climat et sur la vie des populations, notamment mais pas seulement dans les pays du Sud. Alors cette semaine en France, c'est la semaine de la finance durable. Bientôt à la fin du mois, il y a le Climate Finance Day. Donc tout ça prend de l'ampleur. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer tout d'abord quels sont les liens entre les acteurs financiers et le dérèglement climatique ? Parce que c'est pas forcément clair pour tout le monde.
Oui, en effet, c'est une très bonne question parce que généralement, lorsqu'on pense aux responsables des dérèglements climatiques, on a plutôt tendance à avoir en tête des entreprises comme Total, comme Engie ou comme Lafarge. Mais il faut bien garder en tête que tout nouveau projet d'infrastructure, alors que ce soit une école, une voie ferrée, un hôpital, mais aussi une plateforme pétrolière ou une centrale à gaz, a besoin de financement et d'une, voire plusieurs, couvertures d'assurance pour pouvoir voir le jour. Et donc du coup, les grandes banques, les assureurs et les investisseurs jouent donc un rôle majeur dans un contexte d'urgence climatique. D'un côté, ils peuvent décider de se mettre au service de la transition écologique, financer des projets qui sont bons pour la planète et surtout conditionner les soutiens aux entreprises polluantes à un changement de leurs pratiques. Mais ils peuvent aussi décider de financer des activités polluantes aux quatre coins de la planète. Et là, nos acteurs financiers français sont particulièrement intéressants parce que on ne le sait pas, mais nous avons en France des acteurs financiers qui comptent parmi les plus gros au monde. Donc ce que décident les BNP Paribas, les Amundi et les AXA impactent vraiment des millions de personnes.
Alors nombre d'entre eux justement ont pris des engagements hein, au niveau international, mais quelle est réellement la situation aujourd'hui? Est-ce que le monde de la finance commence à changer de camp?
Alors, en effet, on a un nombre croissant aujourd'hui d'institutions financières qui disent s'engager pour le climat. Malheureusement, et malgré l'engouement généralisé pour la finance dite durable, il faut quand même constater que la majorité des services financiers aujourd'hui contribuent à aggraver la catastrophe climatique, avec des conséquences que nous connaissons sur l'économie, la santé des populations et la perte de biodiversité. Pour prendre un exemple, une étude que nous avons publiée avec M Finance avec nos partenaires a montré que les grandes banques ont alloué plus de 2700 milliards de dollars aux entreprises des énergies fossiles depuis que l'accord de Paris sur le climat a été adopté. Alors le problème, il est double. D'une part, c'est autant de financements qui ne vont pas aux vraies solutions, comme les énergies renouvelables, mais ces financements sont pour la plupart donnés sans condition. Autrement dit, les banques continuent de faire des chèques en blanc à des entreprises comme Shell, comme BP, comme Lafarge aussi, je continue d'en parler, qui continuent d'augmenter leur production de gaz et de pétrole, alors que tous les scientifiques disent qu'il nous faut organiser la sortie de ces secteurs. Alors oui, certains ont pris des mesures sur le charbon, c'est certain, mais tous, d'AXA au Crédit Agricole ou encore Natixis, continuent de financer des activités dévastatrices comme les pétroles et gaz de schiste. Société Générale soutient en ce moment même le développement d'un projet situé aux États-Unis qui s'appelle le Rio Grande LNG et qui vise tout simplement à exporter du gaz de schiste, y compris vers la France.
Alors très rapidement, chaque personne qui a un compte en banque, hein, au passage, a aussi à son petit niveau un rôle à jouer.
Alors oui, complètement, via son choix de banque ou encore de produits d'épargne. D'ailleurs, le Covid a eu deux impacts. Le premier, c'est l'augmentation de l'épargne des Français. Et le deuxième, c'est la volonté de redonner du sens à l'épargne. Donc la majorité de la population française aujourd'hui déclare vouloir mettre son épargne au service des territoires et de la transition écologique. Malheureusement, vouloir ne suffit pas, encore faut-il le pouvoir. Et nous avons mené également avec M Finance donc une étude sur plus de 400 fonds commercialisés en France, donc notamment les produits d'assurance vie, les produits d'épargne en action, les plans d'épargne retraite, etc. Et le bilan est clairement alarmant puisqu'on retrouve dans plus de 80% de ces fonds des entreprises qui sont extrêmement polluantes, ou responsables de violations de droits de l'homme ou même des marchands d'armes. Donc, et même les fonds qui sont soi-disant responsables en matière sociale et environnementale ne sont pas complètement à l'abri d'être exposés à de telles entreprises. Alors la bonne nouvelle, c'est quand même qu'il y a des multiplications aujourd'hui des offres dites durables, avec notamment l'apparition des néobanques. On peut notamment citer Helios, qui va compléter l'offre de la NEF qui existait déjà. Mais clairement, ça ne suffira pas puisqu'il faut absolument changer les pratiques des grands acteurs financiers. Et pour cela, il est indispensable que l'État intervienne. Vous avez mentionné le Climate Finance Day qui aura lieu en France à la date du 29 octobre. Eh bien là, nous appelons une fois de plus le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, à sanctionner les établissements qui soutiennent déjà le charbon, donc qui n'ont pas tenu leurs promesses, mais aussi à imposer des exclusions supplémentaires sur tous les produits d'épargne, pour arrêter de soutenir les activités les plus polluantes et dévastatrices.
Merci beaucoup Lucie Pinson pour toutes ces précisions et j'invite les auditeurs qui veulent en savoir plus sur ce sujet à aller sur votre site reclaimfinance.org. Nous parlons de la fin du capitalisme potentiel qui se lézarde, on va dire, on l'a entendu avec nos invités aujourd'hui dans C'est pas du vent, avec le journaliste Hervé Kempf et l'économiste Christian de Pertuis. Comment est-ce que vous réagissez aux propos de Lucie Pinson, Christian de Pertuis, vous qui en France avez été quand même l'un des comment on peut dire, le père de la taxe carbone à la française. Donc ça fait quand même des années que vous essayez, en tant qu'économiste, de faire en sorte justement que la finance change de camp, qu'on soit un petit peu plus compatible avec ces enjeux climatiques, même si j'aurais tendance à dire que votre sensibilité s'aiguise au fur et à mesure des années. Comment est-ce que vous réagissez à ces propos qui sont pas très encourageants finalement?
Moi, j'ai jamais beaucoup cru, si vous voulez, que la finance allait être à l'avant-garde dans le déplacement des actifs depuis les fossiles vers le vert. Je pense que la finance, elle est moutonnière et qu'elle suit beaucoup plus le sens du vent qu'elle n'accélère le mouvement.
Oui, mais en même temps, on a envie de se dire, si on retire l'argent du pétrole pour le mettre vers autre chose,
c'est beaucoup plus complexe que ça. Je pense que la finance va commencer à retirer son argent du pétrole parce qu'elle commence à se rendre compte qu'elle prend des risques à mettre trop d'argent sur le pétrole. Et là, je rejoins un point qui a été dit par
Lucie Pinson,
c'est que effectivement, qu'est-ce qui peut faire vraiment bouger les banques? C'est la régulation. C'est-à-dire qu'il faut réguler, et la régulation bancaire, ça existe, hein. Vous avez des banques centrales qui mettent des règles sur les risques que prennent les établissements. Il faut mettre dans ces règles des règles strictes sur le climat. Et quelles sont ces règles? La meilleure des règles pour pouvoir déplacer les capitaux, c'est de mettre un prix au CO2, un prix aux émissions de CO2, parce que, comme le dit fort bien Hervé, ce que comprend bien le capitalisme, c'est gagner ou perdre de l'argent. Donc, quand est-ce que vous allez perdre de l'argent sur les fossiles? Lorsque le coût des fossiles va augmenter grâce à des régulations.
Mais ça existe, un prix aux émissions de CO2, ça marche pas très bien quand même.
Bien sûr que si, ça marche. Simplement, oui. On le fait pas du tout assez fortement. Hein. Mais je rappelle que le système européen d'échange de quotas a été mis en place en 2005. Et si vous regardez l'évolution des émissions de CO2, vous verrez que depuis 2005, elle diminue en Europe dans la quasi-totalité des pays. Ce n'est pas totalement un hasard. Simplement, on n'utilise pas suffisamment ces outils. Et pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas suffisamment ces outils? Parce qu'on ne sait pas gérer leurs aspects distributifs. Et là, on rejoint les questions de distribution qui sont très importantes. Si vous voulez augmenter le prix du CO2 et ne pas faire de la casse sociale, il faut redistribuer une partie de ces taxes carbone vers les couches de la population qui sont les plus susceptibles de pâtir d'une taxe carbone.
Comment on fait?
Un mot, tout simplement, vous suivez les recommandations que j'ai faites en 2014 au gouvernement, qui étaient de redistribuer un tiers du produit de la taxe carbone vers les 4 premiers déciles de revenus.
Et pourquoi personne ne vous a suivi?
Ah, c'est pas à moi qu'il faut le demander, si vous voulez. Je voudrais dire un mot sur le charbon.
Oui, allez-y.
L'Allemagne a décidé l'année dernière de sortir du charbon. Ce qui est quelque chose d'extrêmement important sur le plan des émissions de gaz à effet de serre en Europe. La Deutsche Bank ou aucune des banques allemandes n'y est pour quoi que ce soit, pas plus que BNP Paribas ou n'importe quelle banque française. C'est bien parce que l'État a décidé de sortir du charbon que la dynamique commence à se mettre en route. Bon. Deuxième point peut-être sur le financement des énergies renouvelables, pour enfoncer le clou. Qui a pris le risque sur le financement des énergies renouvelables et qui a fourni les financements pour développer les énergies renouvelables? Pas les banques. Les banques n'ont pris aucun risque sur le développement des énergies renouvelables. Ce sont les États, les régulations qui ont fixé des prix qu'on appelle des prix garantis. Mais donc moi, j'ai beaucoup de scepticisme lorsqu'on me parle du rôle moteur de la finance verte. Je pense que la banque suit beaucoup plus les injonctions de la régulation des États qu'elle ne n'accélère le mouvement.
Hervé Kempf, vous allez réagir évidemment au propos de Christian de Pertuis, mais comme j'ai lu votre livre, dans votre livre, vous ne croyez pas beaucoup à la régulation de l'État, puisque vous dites qu'en gros, qu'aujourd'hui on vit en oligarchie, il faudrait d'ailleurs que vous expliquiez ce concept, et que du coup, l'État, ce n'est pas abstrait, l'État, ce sont des gens, et des gens qui finalement sont imbriqués avec les plus grands capitalistes qui du coup entretiennent le système entre eux, quoi.
Voilà, tout à fait. Donc, je crois à la régulation de l'État, pas seulement à la régulation de l'État, l'État pensé comme représentant de l'intérêt collectif, mais je crois à la régulation de l'État et au mouvement des citoyens et de la société civile. C'est inséparable. Mais effectivement, pour l'instant, une grande partie du travail de Christian de Pertuis a été très utile sur la taxe carbone. Une grande partie du travail de d'innombrables économistes, par exemple ceux d'Attac, les économistes atterrés et bien d'autres, est parfaitement utile. Donc on sait ce qu'il faudrait faire. La question au bout d'un moment qu'il faut se poser, c'est pourquoi ça ne se fait pas ? Ben, pourquoi ça ne se fait pas ? Parce que les gouvernements ne le veulent pas.
Parce qu'on ne va pas redevenir des amis et fonctionner à la lampe à huile.
Non, mais c'est même pas ça. C'est parce que les gouvernements ne le veulent pas, parce que les gouvernements sont au service des capitalistes. Donc ça, c'est le concept de l'oligarchie que vous avez recité, que j'ai contribué à remettre dans le débat public. C'est une situation, un régime politique dans lequel une petite partie de la société décide pour tout le monde. Oligo, ça veut dire peu nombreux en latin. Et une des caractéristiques de l'oligarchie, c'est qu'il y a une sorte de consanguinité entre l'État et les capitalistes et les représentants des intérêts économiques.
Et les médias. Certains médias.
Et des médias, pas RFI, pas reporters par exemple, parce que vous dépendez des citoyens par les contribuables et nous dépendons d'électrices et d'électeurs, mais malheureusement RFI et reporters sont encore des médias relativement petits et nous pesons peu par rapport à la masse des grands médias qui, particulièrement en France, appartiennent aux milliardaires, aux marchands d'armes et aux capitalistes du télécom ou de la finance. Mais les gouvernements, à l'heure actuelle, sont aux mains de la finance. On a eu cette citation extraordinaire de M. François Hollande tout à l'heure. En 1912, au moment de sa campagne électorale, et dit « le gouvernement et la finance ». Eh bien, il s'est couché devant la finance. Il a révélé que c'était vrai, parce que quand il est arrivé, il a abandonné le projet de réforme bancaire, normalement, qui aurait consisté à séparer les banques de dépôt et les banques spéculatives. Il n'a rien fait, et en fait, il a agi pour la finance. Monsieur Emmanuel Macron, par exemple, qui est président de la République française en ce moment, vient de la banque Rothschild, et quand on citait, par exemple, la taxe carbone, pourquoi la taxe carbone en France, qui aurait pu être une bonne mesure, si elle avait eu des effets redistributifs, n'a pas été acceptée par beaucoup de gens, notamment par exemple les gilets jaunes et tout simplement les gens qui vivent loin des villes et ont besoin de leur voiture, parce qu'en fait, cette taxe carbone servait pour financer la suppression de l'impôt de solidarité pour les grandes fortunes. Autrement dit, on avait une politique en faveur des riches. Donc voilà, le nœud dans lequel on est n'est pas un nœud de savoir économique, n'est pas un nœud de technique économique. Heureusement, beaucoup d'économistes comme Christian de Pertuis jouent un rôle et font un travail utile, mais à un moment, on a maintenant un blocage politique, et simplement, et particulièrement la finance. Évidemment, je ne crois pas du tout à la finance. La finance, elle est encore plus détachée de la vie réelle que, par exemple, les grandes entreprises. La finance, son but, c'est simplement de gagner plus d'argent. C'est purement numérique, enfin purement des chiffres. Et elle ne peut pas sortir de cette logique de profit si on ne l'en sort pas.
En tout cas, on l'a bien compris, il faut décoloniser nos esprits, fabriquer de nouveaux imaginaires pour penser le monde qui vient. On en parle juste après une pause musicale en compagnie de Lobo Emmy. Tiens, ça s'appelle Le Fric.
Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
On a fabriqué des églises, des grands palais, des cours d'assises pour lui. On a dessiné des frontières et rangé la paix au vestiaire pour lui. On a façonné un mur entre les ventres creux et les gros ventres pour lui. La bonté n'est plus qu'une enclave, un fœtus, un futur esclave pour lui. Lui que l'on prie tous à genoux, à qui l'on offre tant de vie. Commandant au-dessus de nous les manettes de nos envies. Dieu le seul, le vrai, l'unique. Le fric. Travaille à contre-cœur pour lui. On se fait voleur plutôt pire en marchant de tous nos soupirs pour lui. Asservi, aveugle et muet devant ses misères créées pour lui. On se dégonfle, on s'accroupit en renonçant à l'utopie pour lui. Lui le magicien qui transforme les chefs d'État en marionnettes. Ces démocraties conformes à ces idées de proxénète. Le Dieu le seul, le vrai, l'unique. Le fric. violée d'âme nature, anéantit notre futur pour lui. On a rendu folles les vaches qui, sans le savoir, s'entremâchent pour lui. Aux philosophies du profit, l'oxygène se raréfie pour lui. On va crever avec le monde, noyé sous notre merde immonde pour lui. Lui qui est au-dessus de tout, du paradis et de l'enfer, qui a fait Allah son toutou, de Jésus s'abonne à tout faire. De Dieu le seul, le vrai, l'unique. Le fric. De Dieu le seul, le vrai, l'unique.
C'est pas du vent sur RFI.
C'est pas du vent sur RFI.
Vous l'aurez certainement remarqué, même les partisans les plus convaincus du capitalisme semblent guère oser employer les mots capitaliste et capitalisme. Ils leur préfèrent des expressions plus ou moins équivalentes comme économie de marché, économie libérale, libre entreprise, etc. De sorte que ces mots capitaliste et capitaliste ne sont plus employés que par leurs adversaires et par les historiens. D'où ce titre un peu provocant, le capitalisme maladie honteuse avec un point d'interrogation.
Pour nous écrire, c'est pas du vent, @rfi.fr.
Le capitalisme, une maladie honteuse, point d'interrogation, c'était le titre d'une émission de Bernard Pivot, apostrophe, en 1977. Comme quoi l'histoire bégaye, puisque nous parlons dans cette émission de la fin du capitalisme ou de sa nécessité d'évoluer aujourd'hui avec le journaliste Hervé Kempf et l'économiste Christian de Pertuis. Alors comme c'est difficile, on l'a compris un peu à travers vos propos, de se désimprégner pour nous, auditeurs, de décennies de doctrine majoritaire. Et en fait, ça commence par considérer l'économie tout simplement peut-être pour ce qu'elle est, comme nous l'explique l'économiste et philosophe sénégalais Felwine Sarr.
Enfin, ce qu'on oublie, c'est que l'économie n'est pas naturelle. L'économie est une anthropologie, et l'économie est d'abord un fait social, un groupe humain dans un lieu, une géographie, a des ressources, a des contraintes, a des besoins, avec ça, il essaie de trouver un modèle qui fonctionne. Et toute l'anthropologie économique nous montre qu'en Tasmanie, quand il y a des sociétés de l'abondance ou des sociétés du don et du contre-don, c'est parce que ça répond à un contexte, ça répond à une écologie des ressources, ça répond à une géographie. Et à l'intérieur de ça, les groupes humains sont intelligents, essaient de trouver les modes de production, de répartition de la plus-value, les modes d'échange qui sont adéquats à leur système. Et que l'économie néolibérale capitaliste est un fait social. Les groupes humains ont répondu à leurs besoins économiques durant des millénaires sans cette forme-là. Et cette forme, elle est apparue à un moment donné.
Ça ne fait que 150 ans finalement.
Voilà, ça ne fait que 150 ans sur la grande histoire de l'humanité. Et cette forme-là, arrivée au cœur de ces contradictions internes, disparaîtra. Et que donc, du coup, ce n'est pas une parole d'évangile. Et ce modèle essaie de nous faire croire qu'il est le seul, issu d'une longue évolution, et que c'est le dernier jour, quoi, le jour où Dieu se repose, le dimanche éternel, et rien ne se passera plus. Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, beaucoup d'économistes très sérieux ont commencé à travailler à l'économie post-capitaliste, ont commencé à se poser des actions de savoir. Ben, si on n'a plus le système financier, comment on fait ? Comment on fait circuler des échanges? Qu'est-ce qui va prendre la relève? Si on n'a plus de banque, comment ça va marcher? Etc, etc. Donc, il faut, du point de vue des chercheurs, il faut cette réflexion prospective. Mais peut-être qu'il faut aussi redescendre du point de vue des sociétés et se rendre compte que les individus sont les experts de leur propre vie. Les sociétés humaines sont très créatives et elles n'attendent pas les théoriciens pour trouver des solutions au jour le jour, pour essayer des stratégies et sélectionner celles qui fonctionnent. Et on a une économie en Afrique qu'on appelle l'économie informelle, qui nourrit plus de 60% des Africains, qui a une vision intégrative des fonctions d'allocation et de redistribution, mais en même temps, qui est hyper formalisée, sauf qu'elle n'est pas formalisée sur les mêmes codes et sur la même axiologie que l'économie classique.
C'est presque une insulte de l'appeler l'économie informelle.
Oui, parce que justement, on la réfère en négatif par rapport à une économie qui serait, elle, la bonne économie, l'économie formelle. Et au lieu de voir que c'est une économie populaire fondée sur une socioculture et qui a ses codes et qui est formalisée sur la parole donnée, sur la confiance, sur la fiducia, sur un certain nombre de choses, sur le capital social et symbolique, et qui justement produit des résultats intéressants, qui a des limites et des faiblesses, bien sûr, qu'il faut regarder en face, mais qui a dans d'autres domaines des résultats absolument importants. Au lieu de regarder comment ces résultats, on les améliore, comment on les comprend, comment on leur fait changer d'échelle, etc., etc., puisque ça fonctionne sur des ressorts qui sont profondément là, non, on essaie de la formaliser.
Alors, c'est qui on ?
Les gouvernements, les thuriféraires du système économique, tous les prescripteurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'économie, ce n'est pas juste un individu, c'est un système industriel, c'est la Banque mondiale et le FMI, c'est des ouvrages d'économie néolibérale, c'est des discursivités hétérogènes qui nous gouvernent, des slogans, des visions du monde, etc. etc. Et c'est tout ça qui installe un système.
Le rôle des médias aussi.
Oui, qui s'émine dans le corps social, un certain nombre de pratiques, une vision du monde. Il y a eu quand même un travail systématique ces 20 dernières années pour ne laisser de la place qu'à cette vision économique-là et en faire la vision économique.
Christian de Pertuis, donc Philippe Minsard n'est pas tout à fait d'accord avec vous, il faudrait qu'il soit avec nous pour dialoguer, mais vous voyez, lui il dit quand même l'État a un rôle qui est plutôt d'entretenir une économie qui ne reconnaît pas par exemple l'économie informelle africaine qui nourrit 60% des Africains.
Je pense que le fait que l'économie libérale ne soit pas la science économique éternelle, ça fait aucun doute, et évidemment les relations économiques sont des faits sociaux, je partage complètement ce point, et l'économie informelle, pour moi, est une partie intégrante, évidemment, de notre champ d'études. On ne peut absolument pas comprendre le fonctionnement de mécanismes de reproduction sociale si on n'intègre pas cette économie informelle. C'est particulièrement vrai dans les pays au sud du Sahara, que je ne connais pas très bien. C'est également le cas dans les pays du Maghreb, au nord du Sahara, que je connais un peu moins mal, puisque j'ai habité 4 ans en Algérie. Et c'est également vrai chez nous. Si vous voulez, donc moi j'ai aucun doute là-dessus. Ce que je trouve intéressant dans ce qui a été dit, c'est que il me semble qu'aujourd'hui, sur les solutions un peu, hein, les questions, c'est qu'est-ce qui va nous sortir finalement des impasses dans lesquelles on est, parce que c'est quand même ça qui est intéressant. Bon, je trouve que en matière énergie-climat, on a une multiplicité d'innovations de territoires, si vous voulez, qui certaines sont militantes, d'autres sont moins militantes. Certaines ont lieu chez nous, d'autres ont lieu dans les pays moins avancés. Bon, moi, je participe un peu à certaines ONG de développement, si vous voulez. Bon. Et je trouve que là, il y a un champ incroyable d'expérimentation et d'innovation. Et ce que on ne sait pas aujourd'hui imaginer et anticiper, c'est le changement d'échelle, si vous voulez. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très important. Et pour moi, la situation est assez différente suivant que on regarde les deux grandes transitions qu'il faut réaliser pour au nom de l'écologie. Vous avez la transition énergétique. Pour moi, le volet transition énergétique est relativement clair et relativement modélisable. Vous avez un système énergétique qui fonctionne depuis 150 ans sur l'accumulation de 3 sources fossiles, le charbon, le pétrole et le gaz. Il faut sortir ces 3 sources du système énergétique le plus rapidement possible dans les 20 ou 30 prochaines années. Cette transformation, je sais la modéliser sur le plan économique et je sais même à peu près préconiser des politiques efficaces et justes si je marie le système de tarification carbone avec de la redistribution. Je ne dis pas que j'ai la solution, mais je pense que l'analyse économique permet d'éclairer et d'accélérer le mouvement de transformation. L'autre grand volet, c'est le volet qui concerne la biodiversité terrestre mais biodiversité marine aussi, et le secteur absolument pivot pour cesser les dégradations de la biodiversité, c'est évidemment le secteur agricole, hein, qui joue un rôle majeur, directement parce que suivant ses propres pratiques, il peut soit respecter, soit accélérer la perte de la biodiversité, indirectement parce qu'il est partout et toujours, aujourd'hui comme hier, la première source de déforestation. Et sur ce volet agroécologie, je trouve que l'économiste que je suis est beaucoup plus démuni, et les outils que j'ai appris à l'université, que j'ai même enseigné à l'université, que je continue un peu d'enseigner, me semblent très peu adaptés à cette question. Parce que quoi ? Parce qu'on touche au rapport au vivant. Et je sais pas, moi, si vous me demandez c'est quoi la valeur d'un pangolin, c'est quoi la valeur de la loutre de mer, qui est un animal absolument essentiel pour certains milieux marins, ça rentre pas dans le cadre classique hein, de l'outillage des économistes, parce que le rapport au vivant, c'est le rapport à une multitude d'êtres vivants qui composent le milieu naturel, et la valeur de chacun d'eux ne dépend que de la multiplicité des interactions entre eux, et donc ça, je trouve que il faut faire beaucoup de recherches économiques pour essayer de bien comprendre ça, pour pouvoir contribuer avec notre modeste rôle d'économiste aux solutions dans le domaine du respect du vivant.
Hervé Kempf.
On vient d'entendre un aveu tout à fait extraordinaire et significatif, qu'au bout d'un moment, l'économie ne peut plus rien. Pourquoi ? Parce que tout ne peut pas être saisi par l'économie. Et justement, moi j'ai trouvé extraordinaire ce qu'on a entendu de M. Felwine-Sarr. Le capitalisme est une forme sociale qui disparaîtra. C'est ça qu'il a dit. Donc il a raison, je suis en plein accord avec lui là-dessus, une vision sur historique. Le capitalisme est un moment de l'histoire qui va, comme tous les moments de l'histoire, passer et on va passer à autre chose. Et après, il nous invite à penser le post-capitalisme. Et là, il y a des solutions possibles. Donc voilà, moi je trouve que les pistes que dit M. Sarr sont très bonnes. Une des façons de penser le post-capitalisme, c'est de s'inspirer d'un autre économiste qui s'appelle Karl Polanyi, qui a une grande œuvre en 1944, et qui nous a expliqué qu'une des caractéristiques du capitalisme, ça avait été de faire en sorte que toute la société soit absorbée par le marché, par l'économie de marché. Toute la société était pensée comme devant être un marché. Alors que ce que l'on a entendu de la part de M. Sarr, et ce que beaucoup d'autres personnes peuvent dire, c'est que la société, c'est bien autre chose que le pur rapport économique. Derrière le pangolin ou la loutre de mer, il n'y a pas seulement la valeur que ça pourrait avoir si on la marchandisait, etc. Il y a un rapport social, il y a la personne qui va dans la forêt, il y a le pêcheur, il y a peut-être d'autres cérémonies qui se jouent. Donc voilà. Donc, pour revenir concrètement, parce que je sais que le temps nous est un peu compté, soyons optimistes. Disons, on peut aller vers la fin du capitalisme, et c'est une bonne chose, parce que la priorité, c'est de sauver la société, c'est de sauver la vie sur Terre, c'est d'imaginer une humanité digne, libre, et qui s'épanouit avec tous les autres êtres vivants. Premier point. Deuxième point, il faut admettre, et c'est là que je comprends tout à fait, que l'économie, malgré sa qualité, eh bien, arrive au bout de ses moyens, parce que l'enjeu, il est politique. Nous sommes dans une situation où les capitalistes ne veulent pas l'égalité, ne veulent pas un égal partage des richesses et des efforts, et ne se préoccupent pas vraiment de la question écologique. Donc on est en conflit. Il faut assumer une part de notre avenir et de la sortie du capitalisme, ça va être le conflit. Ce n'est pas nous qui le choisissons, c'est les capitalistes et les dominants et les oligarques. Après, pensons de manière positive. Grosso modo, plutôt que d'accumuler des biens, cherchez les liens. Tout ce que l'on sait, c'est que la société, elle se tisse par les liens. Ce qui fait les rapports humains, c'est les gens, on se connaît, on se parle, on se touche, on s'aide, parfois on s'engueule. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'il nous faut retrouver, et pas seulement le pur rapport monétaire. Aller vers la sobriété, ça c'est absolument indispensable. Donc chercher, et Christian citait effectivement, il y a plein d'alternatives, heureusement, qui sont souvent d'ailleurs dans C'est pas du vent et dans tous les autres journaux qui s'intéressent à l'écologie. Il y a plein d'alternatives, il y a plein d'initiatives chez les paysans, chez les ouvriers, chez des ingénieurs, même chez des économistes. Et donc on cultive tout ça dans l'esprit de la sobriété. Et puis on fait le soin, on est attentif aux autres.
Voilà, ça sera la phrase pour terminer l'émission. Christian de Pertuis, qu'est-ce qui vous amuse ?
J'aime beaucoup le même pour les économistes. Moi, je pense que chaque fois qu'on a des alternatives politiques et des projets alternatifs, il faut quand même écouter les économistes, parce que leurs avis sont souvent extrêmement utiles. Et quand on n'écoute plus du tout les économistes, parfois, on peut aller dans le décor quand même.
Bah écoutez, dans cette émission, on est pour écouter tout le monde. La preuve, vos présences aujourd'hui. Je rappelle le titre de vos ouvrages, Hervé Kempf, Que crève le capitalisme, ce sera lui ou nous. C'est publié aux éditions du Seuil. Christian de Pertuis, Covid-19 et réchauffement climatique, plaidoyer pour une économie de la résilience. C'est publié chez De Beck Supérieur. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous pour votre fidélité. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve demain, même planète, même heure.